Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 19 mars 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, dans la dernière semaine, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé?
Bien, on a ressorti un peu la tête de l'eau, prendre une respiration. Là, les marchés ont remonté avec une très forte journée vendredi, très bonne journée lundi. Hier, c'était négatif. Donc, hier mardi, là, c'était négatif un peu. De sorte que sur une semaine, on a un rendement positif sur le TSX de 1,9%. Ça nous ramène à un rendement de zéro année à jour sur le TSX. Le S&P 500 a monté de 0,7% cette semaine. On est quand même en baisse de 5,8% depuis le début du mois, une baisse de 4,5% depuis le début de l'année. Et du côté du Nasdaq, des titres technologiques, donc ils ont rebaissé un petit peu plus hier. Donc quand même une hausse de 0,4% cette semaine, 7,2% de baisse depuis le début du mois de mars, 9,4% de baisse depuis le début de l'année. Nos indices obligataires, donc l'indice obligation universelle au Canada, depuis le début du mois, une hausse de 1,1%. Donc, on vous répète, là, depuis quelques semaines, là, le portefeuille équilibré 60-40 n'est pas mort. Là, les obligations font leur travail, puis dans un marché un petit peu plus chambranlant, bien, les obligations produisent un rendement positif alors que les actions baissent. Du côté des taux d'intérêt, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. Là, on est exactement au même point où on était la semaine passée. Le dollar canadien a remonté une petite affaire. Aujourd'hui, on surveille la Réserve fédérale américaine qui va annoncer sa politique monétaire. En général, on s'attend qu'il annonce rien du tout, là, pas de baisse de taux cette fois-ci. Il y a quand même des baisses anticipées plus tard dans l'année. Donc, on verra surtout, non pas qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau des taux d'intérêt, mais qu'est-ce qu'ils vont dire après leur annonce. Souvent, c'est la conférence de presse qui est intéressante. Hier soir, Alimentation Couche-Tard, donc un titre là, largement détenu par à peu près tous les Québécois,
oui,
dont plusieurs de nos clients, ont annoncé des résultats financiers. Des résultats financiers meilleurs que prévu. Par contre, les attentes étaient déjà relativement pessimistes. On sait que les consommateurs américains, surtout les consommateurs à faible revenu, ont plus de difficultés. On l'a vu dans des résultats financiers chez Walmart, chez Target. Donc, Couche-Tard, là, qui est, bon, c'est une entreprise québécoise, là, mais la majorité des revenus proviennent des États-Unis. Et donc, ils ne sont pas immunisés contre ça, mais ils ont quand même relativement bien fait. Ceci dit, dans les dernières quelques semaines, là, le titre est quand même passé de 85 à 67. Une baisse de 22%, ce qui reflète un peu ce pessimisme-là face aux consommateurs américains. Mais autre nouvelle aussi intéressante sur Couche-Tard, alors qu'on croyait que l'entente avec 7-Eleven au Japon était complètement morte et enterrée, ils ont signé une entente de confidentialité. Ils sont en pourparlers. La famille là-bas qui voulait privatiser 7-Eleven n'a pas réussi à obtenir le financement. Donc, c'est encore, comment on dit, un long shot. Là. C'est loin d'être fait, mais ce deal-là n'est pas mort et ça pourrait revitaliser un Couche-Tard là, pour quelques années encore si jamais cette transaction-là devait passer. Et aujourd'hui, ben, plus tard, après la fermeture des marchés, ce sera Power Corp, une autre entreprise québécoise que beaucoup de nos clients détiennent, va annoncer les résultats financiers. Alors, on vous donnera un petit peu qu'est-ce qui s'est passé la semaine prochaine.
Oui, exactement. Puis j'avais lu, je pense, dans le Wall Street Journal, l'histoire de 7-Eleven. Donc, si ça vous intéresse, c'est le fun à lire. C'est quand même une histoire de plusieurs années et ça vaut la peine d'être lu. Vous pouvez le rechercher sur l'Internet. Merci beaucoup, Martin. Pour notre sujet principal aujourd'hui, on voulait parler d'entrepreneuriat. Donc, la situation démographique au Canada et au Québec fait en sorte que beaucoup de baby boomers, entrepreneurs, arrivent à leur retraite et commencent, ou arrivent proches de leur retraite, on devrait dire, et commencent réellement à planifier le transfert de leur entreprise qu'ils ont créée au cours des dernières décennies. Parmi vos amis, votre famille, il peut y avoir des gens qui font face à ce dilemme-là actuellement. Donc, ça peut ne pas être nécessairement vous, mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est entrepreneur, je pense aujourd'hui, vous pourriez partager le balado avec eux. Pour adresser certains défis présents pour les entrepreneurs, nous avons invité notre collègue Guillaume Lalonde, conseiller principal, coach en transfert d'entreprise, pour venir nous parler aujourd'hui de comment aborder la transmission de votre entreprise avec confiance.
Oui.
Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui, Guillaume.
Ça fait plaisir. Salut Sarah, salut Martin.
Merci. Donc, brièvement, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au niveau de la gestion de patrimoine des jardins?
Bien sûr, Sarah, c'est un immense là, privilège là, que j'ai chez Desjardins. De la gestion de patrimoine, c'est doté d'une petite équipe de coachs en transfert d'entreprise pour appuyer l'ensemble de nos collègues en gestion de patrimoine. Donc, nous, on se lève le matin puis on a un seul objectif, comment on peut aider nos collègues et indirectement aider nos membres clients pour le transfert de leur entreprise. Comme tu l'as mentionné, c'est un processus sur quand même plusieurs années, donc il y a beaucoup d'étapes, plusieurs éléments, donc c'est un sujet qui est fascinant. Moi, je suis un passionné.
Ben oui, puis tu as travaillé dans différents endroits, ça fait plusieurs années que tu travailles là-dedans, puis tu as quand même beaucoup d'expérience. Est-ce que tu pourrais commencer avec qu'est-ce que l'engagement actionnarial, dans une entreprise familiale?
Oui, bien sûr, je trouve que c'est une notion qui est peut-être un peu moins soulevée comme enjeu, mais qui est primordial, puis on le voit dans plusieurs dossiers, puis des fois même indirectement, sans que ça soit mentionné, là, tout ce qui est engagement pour un transfert d'entreprise familiale là, particulièrement, mais ça a un impact vraiment majeur. Là. C'est un sujet qui est complexe, donc je vais essayer d'être vraiment concis, puis donner vraiment un aperçu clair. Là. N'hésitez pas là, à me reprendre, Sarah, puis Martin. S'il y a quelque chose. Puis également, on invite nos auditeurs là, à nous contacter s'ils veulent avoir plus de détails. Là, bien sûr, on va faire un petit survol très rapide, mais je pense qu'on va vous donner quelques clés. Puis le but, c'est vraiment que vous ressortez avec des actions concrètes que vous pouvez mettre dans vos entreprises. Là. Donc, l'engagement actionnarial, souvent, notre premier réflexe, c'est qu'on pense que c'est une simple décision individuelle d'être engagé dans l'entreprise puis d'avoir un goût de relève. Mais non, c'est vraiment un processus qui est quand même complexe et qui prend du temps. Il y a plusieurs niveaux que l'engagement peut être mis en contribution. Bien sûr, il y a le côté opérationnel de l'entreprise. Donc, est-ce que, par exemple, ma fille, mon fils, elle travaille dans l'entreprise, souhaite avoir des projets spéciaux, a des nouvelles idées au niveau de l'innovation, par exemple? Oui, il y a le côté opérationnel, mais il y a tout l'aspect aussi actionnarial. Donc, d'avoir le bon chapeau d'actionnaire, ce n'est pas nécessairement les mêmes rôles, responsabilités de gérer une entreprise et d'être actionnaire. Et bien sûr, quand on parle d'entreprise familiale, il y a la famille. Donc, très grand sujet, ça aussi. Donc, il y a des niveaux il y a des actions concrètes qu'on peut mettre au niveau familial également.
Parfait. Puis, est-ce qu'on peut parler d'actions concrètes qu'un entrepreneur peut poser? Est-ce que peux-tu nous donner quelques exemples que tu as croisés dans ta carrière à date?
Oui, avec plaisir. Puis pour favoriser l'engagement au niveau familial, pour qu'il y ait bien sûr une harmonie puis un attachement là, à l'histoire de la famille. Dernièrement, on accompagnait une entreprise dans le domaine du transport. Eux, ils se dotaient qu'à chaque samedi midi, ils faisaient un petit résumé de la semaine de l'entreprise. Puis ils mentionnaient un peu les enjeux qu'ils ont eu, les solutions qu'ils ont apportées. Puis ça, ils faisaient ça dès l'âge primaire lors de leur enfant. Donc inconsciemment, les enfants étaient exposés à l'entreprise, c'est l'importance de l'entreprise aussi parmi la famille. Ça développe un sentiment, entre autres, d'engagement dans tout ça. Mais l'enjeu, c'est d'avoir un équilibre qui est assez sain aussi, là, ne pas submerger non plus sa famille avec l'entreprise pour que ça devienne 24 heures sur 24. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de dosage là, par rapport à l'attachement de l'histoire de l'entreprise. Là. Quand je parlais aussi d'harmonie familiale, nous, c'est très rare qu'il y ait des clients qui nous mentionnent « Moi, j'adore le conflit dans ma famille. » idéalement, ils souhaitent éviter les conflits.
Évidemment.
Donc, c'est sûr que la communication, c'est le grand mot. D'avoir des conseils de famille périodiquement, d'avoir des rendez-vous là, pour parler des enjeux parmi la famille. Là. C'est un très bon terrain à la base. Là. Et ça permet, et l'harmonie familiale aussi, ça permet d'aborder des questions qui sont peut-être un peu plus lourdes de sens, comme la sortie du dirigeant, là, par exemple.
Oui.
OK. Puis il y a différentes choses que des actions concrètes, comme des tableaux qu'on peut mettre en place.
Exactement, oui. Là, on a parlé de la famille. Tout ce qui est au niveau actionnarial, on sait que dans nos PME, souvent, les propriétaires, c'est des actionnaires opérateurs de l'entreprise. Puis changer le chapeau est quand même un très grand défi.
Ouais.
Donc, clarifier les rôles de responsabilité, là, c'est vraiment une action très concrète qui peut être faite rapidement. On peut jouer au jeu un peu. On va faire comme si, donc, quand on veut impliquer nos enfants dans l'entreprise, on peut leur, même s'ils ne sont pas actionnaires de l'entreprise, on peut dire, écoutez, là, on va faire comme si vous êtes actionnaire. Voici l'enjeu qu'on a, comment on pourrait élaborer cet élément-là. Donc, ça permet aussi, entre autres, le développement de l'engagement dans l'entreprise. Puis au niveau opérationnel, si vous permettez, tout ce qui est développer la fibre entrepreneuriale, c'est un élément qui est majeur pour notre élève d'entreprise au Québec. Là. J'avais une firme conseil dernièrement qu'eux, ils mentionnaient que avant que les enfants deviennent actionnaires de l'entreprise, ils doivent absolument avoir une expérience extérieure de l'entreprise. Eux, ils avaient mis un 4 ans. Donc, ouais. C'était vraiment une condition non négociable de, si vous voulez devenir actionnaire un jour d'entreprise, travaillez ailleurs X nombre d'années, puis par la suite, vous revenez dans l'entreprise. Ça permet aussi d'être un peu plus crédible, être aussi légitime parmi les employés actuels. Là,
puis des fois, d'amener des meilleures pratiques de l'externe à l'intérieur de l'entreprise. Puis nous, on a fait une formation il y a quelques temps, puis le formateur nous parlait, tu sais, des fois, au lieu de travailler dans la business, il faut que tu travailles sur ta business. Donc, tu sais, de mettre le chapeau d'actionnaire pour non pas exécuter des tâches, mais essayer de planifier l'ensemble de la business au-dessus de l'entreprise. Puis ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que nous, on est toujours là, tu sais, à appeler des clients, à exécuter des tâches. Puis des fois, tu sais, prenez le recul et regardez ça comme travailler sur votre business et non à l'intérieur. Puis je trouve que ça rejoint un peu le point que tu viens de mentionner.
Puis moi, je trouve aussi dans notre propre business, avec Mathieu qui travaille avec nous, que dans 15 ans, il va prendre la relève, il y a des choses qu'on a fait concrètement là-dedans. On parle de business à la maison des fois, mais je pense que ça se fait quand même très bien parce que son frère, naturellement, il n'est pas dans la business. Les copines de nos garçons ne sont pas dans la business. Fait que le dosage est quand même très bon. Puis je pense super important pour les autres membres de la famille qui ne sont pas nécessairement impliqués dans la business. Et l'autre chose, c'est que je pense que la passion s'est développée plus jeune parce que quand on parlait de notre business puis qu'est-ce qu'on faisait, on travaillait tous les deux en finance, bien Mathieu écoutait, il t'écoutait des fois quand tu étais au téléphone avec des clients. Fait que ça a développé aussi son intérêt à travers les années. Donc l'intérêt se développe pour la business bien avant d'impliquer son enfant dans la business.
Exact. C'est un exemple super pertinent. Puis effectivement, l'intérêt puis l'engagement, ça se développe pas du jour au lendemain. C'est vraiment des petites actions au fil des années, inconsciemment, puis ça permet d'avoir un réel engagement puis d'avoir effectivement un impact significatif.
Des super conseils. Et pour terminer, pourrait-on avoir trois essentiels pour s'assurer d'un engagement?
Effectivement, s'il y avait juste trois choses à retenir de notre conversation ce matin pour nos membres clients et nos entrepreneurs, là, auditeurs, je vous dirais, dans un transfert familial, la famille, là, maintenir la cohésion familiale, donc l'harmonie, c'est essentiel. Ça permet de traiter les sujets qui sont un peu plus lourds. Tantôt, Sarah, tu mentionnais conjoint, conjointe. Jamais oublier ces personnes-là, sans peut-être que... qui sont impliqués dans un cercle très proche dès le début, mais indirectement, un jour ou l'autre, ils vont être impliqués. Donc, c'est à jamais oublier, conjoint.
Ah, ils vont avoir une influence forcément sur les enfants repreneurs. Bien, faut un petit peu les considérer. Ouais.
Ah oui, ça fait partie d'un patrimoine, comme on le sait tous. Deuxième essentiel que je peux vous vulgariser ce matin, tout ce qui est l'attachement à l'entreprise, je trouve que... les entrepreneurs qui ont réussi à bien passer leur histoire d'entreprise, c'est quoi les défis qu'ils ont eu dès qu'ils ont bâti l'entreprise pour la génération 2, ça permet d'avoir une conscience de, OK, mes parents, ils ont traversé X, Y, Z comme défi, puis nous, on va amener ça à un autre niveau. Également, on voit beaucoup de nos membres clients aussi qui sont attachés au niveau peut-être plus de la localité, là, du territoire. Il y a des gens, par exemple, en Abitibi, que c'est vraiment leur raison d'être de l'entreprise. À la fin de la journée, qu'est-ce que ça donne l'entreprise? Bien, ça permet de garder une région dynamique, ça permet d'avoir des emplois, etc. Là, donc, tout l'attachement, je pense que c'est un essentiel. Puis, je pourrais terminer avec un peu l'influence décisionnelle pour la relève. C'est sûr que d'avoir une capacité d'influence pour une future relève, je pense que c'est un ingrédient qui est très essentiel d'être pris en considération. Donc, les entrepreneurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à demander l'opinion, l'avis là, de votre, votre relève familiale, de dire ah, comment on aborde cet enjeu-là. Donc, ça va développer aussi un sentiment d'engagement à ce niveau-là.
Puis, c'est pas un processus qui prend 2-3 semaines, 3-4 mois. Tu sais, il y a tout un aspect fiscal à travers ça. Donc, des fois, on doit purifier l'entreprise, on doit trouver son repreneur, tout ça. Fait, tu sais, même si la graine fait juste germer dans notre tête, il faut tout de suite commencer à parler aux conseillers, puis parce que ça peut prendre 2, 3, 4, 5 ans à réussir ce transfert-là. Fait qu'on veut vraiment taper sur ce clou-là. Les entrepreneurs qui sont souvent très pris à être dans leur entreprise, à travailler pour leur entreprise, ben des faire reculer, prendre une pause, puis dire « OK, ben là, il faut que je planifie ce qui va arriver dans 5 ans avec mon conseiller financier. »
Pas juste dans 5 ans. Hein. La réalité, c'est que nous, on le planifie pour dans 15 ans.
Ouais.
Donc, puis d'avoir une relève qui est prête à assumer puis à prendre la business. Puis comme tu dis, Guillaume, les histoires de la business, puis c'est quoi qui nous motive, puis c'est quoi la culture, c'est hyper important. Puis peut-être juste rapidement, est-ce que tu as eu des dossiers qui ont échoué, que tu as vu échouer, puis tu dis « Ah, ça, c'est la raison que c'est arrivé ».
Mm-hmm. Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que si on prend le repreneuriat de façon générale, peu importe le contexte, que ce soit un externe, un familial ou un manager buyout à l'interne, la statistique, c'est souvent ça va échouer. En toute honnêteté, là, il y a beaucoup de. C'est un processus qui n'est pas facile, qui prend plusieurs années. C'est un sport qui peut être dur, mais tellement gratifiant au final. Moi, j'ai vu des entreprises familiales qu'ils ne laissaient pas la place à la relève. Ils trouvaient que, par exemple, notre relève ne prend pas assez d'engagement, ne prend pas d'initiative. Mais quand on discutait avec ces entrepreneurs-là, on leur posait la question, est-ce que vous laissez de la place aux initiatives à la relève? Puis là, ça fait prendre une petite réflexion. Donc, j'ai vu des cas que... les entrepreneurs avaient réalisé un peu trop tard de « Ah oui, j'avais pas planté peut-être certaines graines dans le passé, j'avais pas fait quelques actions, puis là, il est peut-être trop tard, puis ça fonctionnera pas au niveau familial. »
Bien, ça, c'est super, parce que nous, on le voit aussi un peu dans notre business, hein, puis peut-être pas chez nous, mais on le voit chez des collègues, puis dans notre industrie, où ils ont identifié quelqu'un qui voudrait qu'il prenne la relève, mais c'est sûr, comme entrepreneur, on veut le contrôle. C'est un problème de contrôle, souvent, et de lâcher prise. Puis peut-être que ça, c'est un problème de vie en général, de lâcher prise. Donc ça, c'est vraiment des super conseils, Guillaume. Merci beaucoup.
D'accepter peut-être que le repreneur va faire les choses différemment que nous, on l'aurait fait. Puis ça va peut-être marcher pareil, de le laisser faire à sa façon. Puis peut-être que le résultat va être quand même bien.
Ouais,
puis ça me rappelle vraiment que le meilleur luxe qu'on peut se payer, c'est d'avoir du temps. Puis ça permet de peut-être de faire essai-erreur, de peut-être réajuster notre recette. Donc, je pense que c'est un beau luxe de planifier ça d'avance. Des fois, tous nos entrepreneurs ils ont des esprits stratégiques hors pair, mais il faut penser aussi son projet de transfert d'entreprise avec le même mindset d'esprit stratégique que d'opérateur d'entreprise. C'est crucial.
Bien, merci beaucoup, Guillaume, puis merci, Martin, pour tous nos clients et partenaires, Mathieu, Michel, Martin et Guillaume et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou objectifs financiers personnels. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.